Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâne, au secours! Cet adversaire. C'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Bonjour au Périgord. Bonjour et bienvenue sur La bonne question. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire du passé, une histoire du présent, on ne sait pas si c'est une histoire du futur, avec notre invité Basile Fannier. Donc Basile qui est président des LR Dordogne et chef de file de l'opposition à Sarlat. Ensuite, on a Émilie aujourd'hui à la technique. Bonjour Émilie. Et Stéphane.
Bonjour à tous.
Comment tu vas Stéphane?
Ça peut aller.
Ouais, en forme. Mmh. Aujourd'hui, on va aborder le gaullisme. Toujours dans l'idée d'informer les auditeurs sur des mouvances politiques qui ont marqué notre pays. Le gaullisme, c'est une histoire du passé, mais qui nous marque encore, notamment avec la 5e. J'avance pas trop dessus. Stéphane, tu vas nous faire un petit instant sur des catégories d'hommes d'État.
Oui, petite réflexion, où je subdivise en trois catégories les hommes d'État, les politiques hommes d'État. Il y a la première catégorie, qui sont les vieux renards politiques, qui passent leur temps à faire des croche-pattes à leurs amis et à, je pense comme ça, à Edgar Faure, par exemple, qui ont le poignard facile. Bon. La deuxième catégorie, ce sont souvent des gens brillants, intellectuellement brillants, à qui la classe politique demande de temps en temps de vider les latrines de la nation. Je m'explique. Quand plus rien ne va, on fait appel à eux. Je pense par exemple à Pierre Mendès-France et je pense aussi à Michel Rocard. Voilà. Et il existe pour moi une troisième catégorie d'hommes politiques qui sont et des renards rusés de la politique et des grands hommes d'État très compétents qui marquent leur époque. Je pencherai par exemple à Georges Clemenceau, pour les États-Unis à Roosevelt. Et maintenant, le général de Gaulle, Basile, à toi de jouer pour nous montrer dans quelle catégorie il est.
Ah ben, le général de Gaulle, il est inclassable. Il a fait à la fois preuve de stratégie, pour arriver au pouvoir, et on aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais avant ça, c'est d'abord une personnalité qui avait un sens de la France, un sens de l'intérêt général extrêmement fort.
Toi, pourquoi tu te revendiques gaulliste? Pourquoi tu es devenu gaulliste ou tu étais gaulliste ou comment tu es arrivé
Alors, je ne suis pas né gaulliste. Il se trouve que mes parents n'ont jamais fait de politique. De Gaulle, parce que c'est... plus qu'un homme politique, c'est aussi un engagement pendant la guerre. C'est une forme de héros, de légende qui s'est engagé en politique et dont on vit encore aujourd'hui sur l'héritage, sur les acquis.
De ton point de vue, à toi, quand est-ce que ça commence le gaullisme? On peut faire un petit tour de Gaulle, ok. 22 novembre 1890, né dans le Nord. Ça commence quand pour toi, le gaullisme?
Il y a plusieurs gaullismes. Il y a le gaullisme de guerre, qui est le gaullisme originel. Il y a ensuite un gaullisme d'opposition, qui a essayé de se structurer politiquement et qui a échoué en 1947. Et puis, il y a le gaullisme de gouvernement avec la Ve République en 1958, et qui s'est prolongé un certain temps après. On pourra débattre de... Ouais. Jusqu'à quand est-ce qu'on est encore sous ce règne? Mais je dirais, voilà, il y a plusieurs gaullismes.
Juste une petite aparté. J'avais lu, il y a quelque temps de ça, une biographie sur le général de Gaulle. Quand il est sorti de Saint-Cyr, sa première affectation, c'était Arras. Et Arras, son chef de corps, c'était un certain Philippe Pétain. Il va y avoir des relations, je me permets, je
oui,
complète. Il y a eu des relations entre eux, Pétain, le vainqueur de Verdun à l'époque, hein, on est bien avant la collaboration. Hein. Il y a toujours eu des liens entre les deux, plus ou moins tendus, distendus, mais ils se connaissaient bien tous les deux. Et je crois que sa carrière politique, elle a commencé, c'est pas sous Paul Reynaud qui l'avait mis...
Oui, tout à fait. Il a été sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud.
Voilà, parce qu'il militait pour les divisions blindées, pour les spécialistes.
Donc, est-ce que le gaullisme, il commence là ?
Disons que le gaullisme, c'est d'abord une pensée qu'il a pu faire évoluer tout au long de sa jeunesse, tout au long de sa formation. Il a écrit dans l'entre-deux-guerres un certain nombre de textes pour expliquer qu'il fallait que l'armée se professionnalise, qu'il fallait qu'elle s'équipe de moyens modernes. Et après, je dirais que le point de départ du gaullisme, comme grand moment historique et politique, c'est l'appel du 18 juin 40. Avant, De Gaulle était un officier qui a occupé différentes fonctions dans l'armée, talentueux, reconnu, mais disons qu'il rentre dans l'histoire... ainsi que sa pensée et le mouvement gaulliste, avec le 18 juin 1940.
D'accord. Et sa pensée, elle se construit de quoi ? On sait que De Gaulle est d'un milieu plutôt catholique, c'est plutôt un milieu bourgeois, on va dire, on lui prête des pensées monarchiques. De quoi ça se forme, en fait, sa pensée à lui ?
Tout le monde sait qu'il a été élevé dans un milieu familial assez conservateur. C'est pas le seul d'ailleurs, ça a aussi été le cas de la jeunesse de François Mitterrand. Après, il a montré par son action qu'il était profondément attaché à la République, puisqu'à plusieurs occasions, il a eu l'opportunité de la rétablir, de la renforcer. Mais c'est quelqu'un qui effectivement a des influences diverses, qui sont en fait les influences de la France. Il avait un profond amour de la France, et pour lui, la France, c'était la Révolution, c'était aussi l'Ancien Régime, mais il était profondément républicain.
Souvent, c'est ce qu'on dit quand on lit un peu cette biographie ou qu'on regarde un peu des réflexions sur lui, on s'aperçoit que beaucoup de son mouvement est amené par plusieurs choses, plusieurs idées, comme s'il compactait un peu cette histoire de France depuis la monarchie jusqu'à la Révolution, etc., comme s'il faisait un espèce de compactage de tout ça. Ça rend le personnage un peu pluriel.
Pour rebondir sur ce que tu dis, De Gaulle avait une conscience du passé, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à un certain nombre de nos dirigeants. Il y a cette citation de Churchill là, que je viens de retrouver, qui dit... Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre.
S'il y avait deux, trois dates éventuelles de la construction du gaullisme, elles seraient quand ?
Bon, c'est naturellement la naissance du général de Gaulle en 1890. C'est l'appel du 18 juin en 1940. Ensuite, il y a 1945 qui a été un moment important, un moment d'unité pour le pays, avec un certain nombre de réformes qui ont été votées, telles que le droit de vote des femmes, la mise en place des comités d'entreprise, également la sécurité sociale. Ensuite, il y a eu...
Tu lui donnerais à lui, ça, ce travail ?
C'est un travail collectif auquel il a participé et qui s'est fait sous sa responsabilité. Après, il y a eu aussi, il faut le reconnaître, l'apport des communistes, qui ont travaillé de concert avec De Gaulle à la sortie de la guerre. Mais le patron de ce conseil et de ce gouvernement, c'était le général De Gaulle.
Après, moi, je lui accorde que c'était sous son mandat. Il était président du gouvernement provisoire de 1944 à 1946. Mais ce n'est pas lui qui a mis la sécurité sociale en place, même qu'il l'a pensé et même qu'il l'a voulu. À aucun moment, lui, il est le penseur de tout ce schéma social. C'est pas lui le penseur ni l'acteur de ce schéma. Lui, par contre, il va le permettre.
Alors, ça a été l'acteur, le penseur sans doute pas, mais vous prenez par exemple les institutions de la Ve République. Il peut y avoir un débat aussi pour savoir si De Gaulle en a été le penseur. Vous avez des écrits d'André Tardieu, qui, des décennies avant De Gaulle... à théoriser les institutions de la Ve République.
Mais il y a eu le discours de
Bayeux en 1946, mais qui intervient des années après, par exemple, que Tardieu ait quitté le pouvoir. Et l'œuvre de ce gouvernement au sortir de la guerre, ça a été une œuvre collective. Et le chef de ce gouvernement, c'était le général de Gaulle. Donc ça a été fait, évidemment, avec son accord, avec son assentiment, On connaît le caractère du général de Gaulle, qui ne se laissait pas imposer des choses dont il ne voulait pas. Donc ça a été l'œuvre des communistes, l'idée des communistes, mais ça a été aussi l'œuvre du général de Gaulle, puisque les deux étaient d'accord et les deux ont mis en musique ces réformes.
Et c'est pour ça que je dis qu'il est ambivalent et qu'il sait compacter, en fait.
Synthétiser, faire une synthèse.
Et même le compacter, parce qu'il va réussir quand même, avec cinq ministres communistes, il va réussir à assembler, à compacter un peu toutes ces idées, parce que pour voter pour un militaire et avoir une politique qui est plutôt communiste, il y a quelque chose quand même de l'antinomie.
Les premières élections, si mes souvenirs d'université et de lycée sont bons, je crois que les communistes avaient un tiers des voix.
Hein, ouais. Et c'est pour ça qu'il forme un tiers du gouvernement et qu'il sait en fait compacter, il sait agglomérer les choses.
Donc tu nous dis que c'est un fin renard politique.
C'est un fin renard, mais ça lui amène une personnalité qui est un petit peu trouble, parce que derrière, quand il veut décider de quelque chose, il demande à aucun groupe, il fait seul.
Il y a deux séquences, c'est-à-dire que quand il s'engage dans la résistance, là c'est effectivement un homme seul. Après, quand il prend la tête du pays, il y a un certain nombre de consultations qui sont organisées, on en reparlera sans doute, mais c'est lui qui permet, par un référendum en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est lui qui, comme aucun de ses successeurs, a proposé à la population un certain nombre de référendums. Et donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il ne s'appuie pas sur le peuple, mais il y a aussi un certain nombre de grandes questions qui ont été tranchées par les Français, jusqu'au référendum de 1969, d'ailleurs, où les Français ont dit non, et où le général de Gaulle, comme aucun autre après lui, à quitter le pouvoir alors même que rien ne l'y contraignait.
En dehors de quelques dates que tu nous as données, est-ce qu'il y a des lieux qui sont références dans son parcours politique ?
Oui, il y a plusieurs lieux qui sont références. Il y a d'abord sa maison natale à Lille, qui peut se visiter et qui est gérée par la Fondation de Gaulle. Il y a également le siège de la France libre à Londres, le fameux Carlton Gardens. Il y a également le Mont Valérien, où ont été fusillés beaucoup de résistants. Et il y a aussi sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, la Boisserie, où il a reçu beaucoup de chefs d'État, où il a écrit ses mémoires, où il est mort. Après, il y a plein de lieux auxquels on peut associer le général de Gaulle. Il est d'ailleurs passé à plusieurs reprises en Dordogne, où il avait d'ailleurs, tiens, c'est un lieu qu'on pourrait rajouter à ce panthéon, ses parents avaient, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une maison qui s'appelait la Ligerie, qui est dans le coin du Nontronnais, et où de Gaulle a passé beaucoup de ses vacances.
D'accord. Alors on va faire une petite pause RLP musicale. Un titre qui s'appelle « La Toussaint Rouge », qui est un morceau militant, on va dire, et on se retrouve juste après.
Vous êtes forts soldats, salut à vous. Au-dessus de nos cathédrales, dominons les sanglots et l'erreur. Écoutez le clairon des morts, faire glas des cloches françaises, on tirait malgré l'heure. Une Marseillaise sur les cités et sur les fonds, écoutez les cloches qui parlent, entendez comme elles résonnent pour les morts et pour les vivants. Écoutez, c'est un chant de gloire qui passe au-dessus de vos fronts. Conduit tous nos bataillons pour les terres de la victoire. Mmh.
les surrents et vous perfides, qui croyez morts ces guerriers invincibles, de Rivoli, de Friedland, d'Arcole et de Salmi. Ils sont morts, nous suivons leurs traces, où les cœurs, la région passe. Regardez au plus des drapeaux, défiler l'histoire française, et ses passer en sabots. Les combats de 93, sur les cités et sur les champs, écoutez les cloches qui sonnent.
RLP. De retour sur RLP, donc avec notre invité Basile Fagnier, sur le gaullisme. On va aborder un petit peu la partie sur la guerre d'Algérie, qui est un moment important pour De Gaulle. Qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant sur cet instant ?
La guerre d'Algérie, ça a commencé avant que De Gaulle reprenne le pouvoir. On peut même dire d'ailleurs qu'elle a été pour lui une occasion de reprendre le pouvoir. Cette guerre d'Algérie, il y avait deux forces en présence, avec un conflit un peu bâtard. La France était en situation de remporter une victoire militaire, mais il y avait une impasse politique qui s'est enlisée. Et puis le général de Gaulle a fait la seule chose qu'il pouvait faire et qu'il devait faire, c'est-à-dire par deux référendums, un en 61, un en 62, déclarer l'Algérie indépendante.
Je vais revenir sur l'ambivalence du personnage. Effectivement, c'est la guerre d'Algérie qui lui permet, en 58 et 59, d'être président du Conseil des ministres. Grâce à l'insurrection du 13 mai à Alger, il est demandé par les militaires et par les pieds noirs. Et en fait, il les trahira en 58 parce que, avec le fameux « je vous ai compris », il leur lance un message « j'ai compris votre appel, maintenant je suis là ». Et derrière, il fera ces référendums en fait, qui vont aller contre ces puissances militaires et les pieds noirs d'Algérie.
Là, tu donnes une certaine interprétation du « je vous ai compris », mais c'était une formule on ne peut plus ambiguë. Moi, j'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles sur le sujet. Cette formule, il y a mille façons de l'interpréter, et chacun d'ailleurs y a compris ce qu'il voulait en comprendre. Avec le recul historique, on peut penser que De Gaulle a dit en fait aux Français d'Algérie qu'il avait compris l'attachement des pieds noirs à la France. Mais à mon sens, ce « je vous ai compris » n'est pas une feuille d'action très claire, très précise.
D'accord. On va avancer un petit peu. Donc du coup, suite à cet événement, De Gaulle, il marque de son sceau un petit peu avec une des actions qui est pas nouvelle, qui est connue, mais que lui aime bien utiliser, qui s'appelle le référendum, qui est quand même plus qu'une grande découverte en France, parce que les politiques françaises n'utilisaient pas beaucoup ce système-là. Et ça, c'est quand même un des outils politiques qu'il utilise et qui est, pour le coup, plutôt un point positif pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en dire sur cette pratique-là ? Est-ce qu'elle perdure suffisamment aujourd'hui ? Est-ce qu'à ce moment-là, il l'a trop utilisé, mal utilisé, cette histoire de référendum ?
Je pense qu'il utilisait le référendum comme un
plébiscite.
Plébiscite, voilà, comme un plébiscite.
Tout à l'heure, on s'interrogeait sur ce qu'est le gaullisme. Le gaullisme, on l'a dit, c'est une certaine idée de la France, mais c'est aussi un certain rapport au peuple. C'est-à-dire qu'on avait, jusqu'à la fin de la IVe République, parfois des hommes politiques qui étaient à la fois brillants, qui avait une vision, qui avait le sens de l'intérêt général. Je pense que Mendès France, dont on a parlé, en était un exemple. Mais tous ces gens-là ont été broyés par un système politique où ils étaient incapables de prendre la moindre décision. Et pourquoi ne pouvaient-ils pas prendre la moindre décision ? Parce qu'ils n'avaient aucune légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la séparation des pouvoirs. Elle était très imparfaite à cette époque, puisque l'exécutif procédait du législatif. Donc De Gaulle a remis un peu d'ordre là-dedans. dotant le pays d'un exécutif fort, qui fonctionne plutôt bien. Regardez, on a eu ces dernières années un certain nombre de présidents, dont certains n'avaient pas forcément les qualités personnelles pour exercer le pouvoir, l'autorité. Tiens, un exemple au hasard, François Hollande,
avant Macron,
qu'on aime bien par ailleurs, qui est quelqu'un de sympathique, mais
ça, c'est vilain, ça.
Les institutions de Gaulle ont quand même permis, quelle que soit la personnalité à la tête de l'État, de permettre à la France d'avoir un cap et de ne pas être sujette, disons, à l'influence parfois perverse des partis politiques, parce que la Troisième et la Quatrième République, c'était ça.
Juste quelque chose qu'il faut bien comprendre dans le mouvement du gaullisme, c'est qu'il a une détestation des partis. Ça, c'est clair, il l'a écrit, dit, répété. Bah, il va créer le sien, parce qu'on ne peut pas... Mais tellement de croche-pattes lui ont été faits. On parlait tout à l'heure des apparentements. Bon, c'est des procédés techniques, mais il fallait absolument que De Gaulle n'ait pas de parti...
Oui, lui, c'est plutôt une personne de réseau, hein, De Gaulle. Quand on regarde son histoire, systématiquement, il construit un système de réseau. Il ne construit pas un parti avec des rôles, avec des cases très lisibles. C'est une personne de réseau, c'est une personne de rencontre. Et on peut dire aussi que c'est un opportuniste, mais tellement il fonctionnera en réseau que, par exemple, pour la France-Afrique, il servira Focard. Du réseau avec Focard, qui créera un réseau, on peut dire, assez incroyable et un peu infernal, je pense, pour les pays africains. Notamment, il a sauté sur l'occasion parce que quand De Gaulle arrive au pouvoir, il met le nouveau franc en place. Et ça va créer dans les pays africains toute la dévaluation qu'on va connaître. Et Focard va se servir de ce levier-là, en fait, pour prendre du pouvoir sur les anciennes colonies. Donc, du coup, De Gaulle, c'est ça. C'est plutôt un homme de réseau, un homme qui fonctionne avec des alliances. Mais rien n'est marqué, rien n'est statique. Tout à l'heure, tu parlais d'animal politique. Je trouve que c'est assez animalier, moi, comme comportement. Parce qu'il se sert de ce qu'il y a là devant lui, sur le moment, mais il est capable de l'oublier, de le laisser de côté.
Sur le rapport de De Gaulle au parti, il en était très détaché. Alors, il y a eu des partis gaullistes qui ne se sont jamais, d'ailleurs, appelés partis. Il y a eu le MRP, qui était un mouvement. Il y a eu l'UNR, l'UDR, qui était une union. Plus tard, le RPR, qui était un rassemblement. Il voyait plutôt les partis. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 1947, la création du RPF, qui s'est avérée être un échec, qui ne lui a pas permis de revenir au pouvoir. Donc, ils ont mis la clé sous la porte en 1953. Et quand est créé un nouveau parti gaulliste, l'UNR, en 1958, il est plus utilisé comme une espèce de boutique pour sélectionner les candidats aux élections législatives. Mais la spécificité du gaulliste, c'est bien le lien du général de Gaulle au peuple. Et ce lien, il a essayé de l'ancrer dans la Ve République. Il y a un moment qui est fondateur. En 62, il y a l'attentat du Petit Clamart. Et à ce moment-là, De Gaulle se rend compte que s'il meurt, il y a très certainement un risque de retour au règne des partis et que ce sont les partis qui vont reprendre la main sur le jeu politique français. Or, il veut que le président ait une légitimité. À ce moment-là, De Gaulle va annoncer une révision de la Constitution par référendum en recourant à l'article 11. Et cet article 11... il a une spécificité, c'est que le Parlement n'est pas appelé à voter. C'est le peuple directement. Et sur le recours à cet article 11, il y a eu une motion de censure qui a été votée par l'ensemble de la classe politique, qui a fait tomber le gouvernement Pompidou. Et qu'a fait le général de Gaulle ? Il a dissous l'Assemblée nationale, c'est-à-dire retour au peuple. Il a engagé le référendum qu'il avait annoncé, qui a été un véritable succès. Et ensuite, il a remporté les élections législatives. Et moi, je suis un partisan de ce retour aux sources de la Ve République, puisque en ce moment, plus aucun président de tous bords, d'ailleurs, ne fait de référendum. Et quand on fait des référendums, c'était l'objet d'une de vos précédentes émissions, 2005, la classe politique dans son ensemble s'assoit sur ce qu'ont dit les Français. Et il y a aussi une autre réforme, à mon avis, qui a fait beaucoup de mal aux institutions de la Ve République. Et c'est pourtant quelqu'un qui se réclamait du gaullisme qu'il a proposé, qu'il a fait voter. C'est le quinquennat. Par contre, lorsque l'on avait d'un côté un mandat présidentiel de 7 ans et de l'autre des législatives de 5 ans, ça impliquait que régulièrement, il y avait des consultations. C'est-à-dire que le président, nécessairement, avant la fin de son mandat, allait être confronté à des élections législatives. Donc à l'époque de De Gaulle, il y avait des présidentielles instaurées pour la première fois au suffrage universel direct. Ça, c'était une nouveauté profondément démocratique. Des législatives qui avaient toujours lieu en cours de mandat. Un droit de dissolution qui était utilisé, non pas comme une menace, comme il est utilisé aujourd'hui. Et puis, il y avait des référendums qui étaient des référendums engageants, puisque quand il a reçu une réponse négative du peuple, il a eu la dignité, la hauteur d'âme de se retirer du pouvoir, ce que personne d'autre n'a fait.
Maintenant, puisqu'on aborde la Ve République, oui. Petite banderie sur la Ve République. C'est que c'est un texte qui a été fait de circonstances pour moi, pour un homme. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais c'était les circonstances, c'était la guerre d'Algérie, la France au bord de la fracture et de la guerre civile, et un homme, le général de Gaulle. Après, elle est trop personnifiée. Je prends un exemple. Jamais il ne serait venu à l'esprit du général de Gaulle de faire une cohabitation. Il aurait démissionné, je pense. C'était quelque chose pour lui qui n'était pas concevable. Mais la Constitution ne l'interdit pas. Quand il y a eu la première cohabitation, je me souviens, c'était un cours de droit constit, il y avait le célèbre « Le président signe les ordonnances ». Le président signe les ordonnances, il les signe ou il ne les signe pas ? La Constitution, elle est rédigée comme quoi, de toute façon, si le président signe les ordonnances, c'est qu'il a la majorité. Or, en fait, nous, on se retrouve en cohabitation. Cet exemple, ce qu'il est là pour dire, un texte qui a été trop personnalisé, trop...
Tu voudrais qu'on passe à la sixième, toi ?
Ah non, pas spécialement. Non, ça veut rien dire. Pourquoi pas la septième, la huitième, la septième compagnie, tant qu'on y est. Non, restons sérieux. Quand on touche un texte constitutionnel, j'avais lu, c'était Duhamel qui avait fait ça, je crois, un petit truc de Sciences Po pour dire que c'était magnifique, le quinquennat. En fait, il n'avait pas du tout vu que de changer la lettre allait changer l'esprit. Des fois, j'ai l'impression d'avoir un président actuellement qui est un premier ministre. Il n'y a plus de recul.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que tu fais sur cette constitution qui était, alors certes, on l'a beaucoup entendu, ça s'est beaucoup dit dans les années 50 que cette république était faite sur mesure pour le général de Gaulle, mais à l'usage, il s'est avéré que non. Ça fait plus de 70 ans qu'on est sous le règne de la Ve République, ce qui est quand même une durée assez extraordinaire. Enfin, on n'a jamais été aussi longtemps sous une même république. Et la force de cette Ve République, comme toute bonne loi, et aujourd'hui on ne fait plus de bonne loi, qu'elle soit constitutionnelle ou ordinaire, c'est d'être suffisamment générale ou impersonnelle pour qu'elle puisse s'adapter aux événements. Et quand je vois par exemple les projets de 6e République, ce sont des projets de retour à la 4e République, puisqu'encore une fois, il y avait des hommes remarquables qui avaient le sens de l'intérêt général, mais qui ont été broyés par un système totalement pourri.
Moi, je trouve ça assez juste. Les difficultés politiques, c'est qu'on passe de la monarchie, c'est-à-dire d'un pouvoir fort qui contrôle tout, tout est à lui, à une gouvernance de partis, en fait. C'est une association de partis. Ça sclérose toutes les prises de décision. Et que dans ce que De Gaulle faisait, consulter le peuple à des moments où il sait que ça va lui servir, il a eu des difficultés à faire fonctionner les systèmes de partis, à faire fonctionner l'Assemblée pour aller dans son sens. Là, il a fait du référendum quand ça lui a été nécessaire. Je suis assez d'accord aussi avec Stéphane, sur le fait que c'est très personnifié, mais c'est pas pour De Gaulle seulement, c'est pour des personnages qui n'ont pas besoin du groupe. T'as des gens comme Mitterrand, Sarkozy, qui sont comme ça. Je pense que c'est une constitution qui est faite pour ce type de personnes, pour un mode de gouvernance qui est très centré.
Ma vision de la gouvernance, un chef de l'État, ça doit être un visionnaire. Ce n'est pas un tacticien, c'est un stratège. Il a une vision à terme et aux autres en dessous, au gouvernement, de faire la tactique. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui des chefs d'État qui sont des petits tacticiens, plus de vision globale.
Si on regarde le texte de la Constitution et l'esprit de la Constitution de la Ve République, et c'était scrupuleusement respecté par le général de Gaulle, le chef de l'État a un certain rôle, c'est celui de fixer les grandes lignes de la politique nationale, de représenter la France à l'international, et après, pour tout ce qui est des affaires courantes de la gestion, c'est le gouvernement.
Lui, c'est lui.
Et aujourd'hui, que ce soit avec Macron ou pas mal de ses prédécesseurs, on a des hyper-présidents qui veulent s'occuper de tout, qui ne respectent pas le gouvernement dans son rôle. Et après, le chef de l'État ne décide pas de tout seul. Il y a quand même une Assemblée nationale avec des députés et avec un Sénat qui viennent valider un certain nombre de décisions du chef de l'État, ou de plus en plus, et ça c'est une bonne chose, prendre des initiatives.
D'accord. Ok, petite pause musicale. Gilbert Bécaud, tu le regretteras. À tout de suite. RLP.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras beaucoup.
De Gaulle, la France.
La vie, la longue vie, que ton fils apprendra pour la leçon du mercredi, et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût, moi. Quand elle ne sera plus, je te parie sans sou, ouais. C'est vraiment très dommage, toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage à quand on parle de lui. Cet homme légendaire au milieu des vivants, ouais. Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
De retour sur RLP avec notre invité Basile Fagnier. Le gaullisme, alors les liens avec d'autres mouvements ou groupes politiques. Est-ce que il y aurait eu des liens avec d'autres groupes politiques? Est-ce qu'il y aurait eu des alliances, même si on a bien compris que De Gaulle, les partis, c'était pas sa tasse de thé, mais dans son système de réseautage là.
Avec les communistes au départ, ça on en a parlé.
Ouais.
Avec d'autres, non, il avait l'assise personnelle nécessaire et le peuple derrière lui, donc je vois pas.
Il n'a pas eu un peu de copinage avec des royalistes? Il a pas eu de
copinage. Ah non, ça c'est le comte de Paris qui a fantasmé en, je sais plus à quelle époque, le comte de Paris avait fantasmé que De Gaulle lui aurait dit, parce que De Gaulle a dit plein de choses, hein, des textes apocryphes sur De Gaulle, il y en a. Donc, lui aurait dit qu'il lui laissait le pouvoir quand il partirait.
Est-ce qu'il aurait eu des socialistes dans les gouvernements?
Il y a effectivement plusieurs courants qui traversent le gaullisme. Il y en a qui se définissaient plus à droite, qui ont pu par la suite participer à la création de l'UDR, du RPR. Il y a des gaullistes de gauche, Louis Vallon par exemple, qui a beaucoup milité pour la réforme de la participation. Il y a des gaullistes comme Chirac par exemple, qui lors d'élections présidentielles n'ont pas soutenu les candidats gaullistes, ont préféré par exemple Giscard d'Estaing, qui était centriste et libéral, à Jacques Chaban-Delmas. Non, il y a plein de mouvements qui traversent le gaullisme. D'ailleurs, c'est intéressant, il faut revenir à la fin du gaullisme. Le gaullisme, c'est une idée de la France, de l'indépendance de la France dans le monde, de l'État, de l'autorité, une idée aussi du rapport au peuple. Et avec mai 68, le général de Gaulle est un peu rappelé par la réalité sociale du pays. Et il va vouloir recourir au peuple. Et à ce moment-là, il envisage d'engager un grand référendum sur la participation. Et c'est Pompidou qui obtient que ce référendum soit différé. Il va être remplacé par des législatives que de Gaulle va remporter haut la main. Et puisqu'on parlait des courants qui traversent le gaullisme, il y a certains gaullistes, par exemple, comme Louis Vallon, qui considéraient que Pompidou n'était pas gaulliste. Et il y a même des gaullistes historiques, par exemple Jacques Soustel, qui était en désaccord avec de Gaulle sur sa politique algérienne, qui a écrit un livre qui, je crois, s'appelle 28 ans de gaullisme, et qui conclut qu'en fait, de Gaulle a lui-même trahi le gaullisme. Donc, Malraux disait, il y a tout le monde a été et ou sera gaulliste, mais il y a en fait mille et une nuances de gaullisme. Et encore aujourd'hui, le parti qui peut le plus légitimement se revendiquer du gaullisme, ce sont les Républicains. Tous ne sont pas gaullistes. En 2002, lorsqu'a été créé l'UMP, il y a eu un tournant. C'est-à-dire que pour la première fois, un parti ne s'est plus défini exclusivement comme étant gaulliste. Il reste des gaullistes dans ce parti. Mais il y a eu une fusion entre le RPR, qui était le parti qui descendait directement du gaullisme, avec l'UDF, qui était un peu plus libéral, un peu plus fédéraliste. Donc il y a évidemment mille courants de gaullisme. Aujourd'hui, il faut reconnaître que un peu tout le monde se dit gaulliste. C'est d'ailleurs parfois un peu usurpé parce que dans ceux qui se disent gaullistes, parfois leurs ancêtres ont combattu avec force le gaullisme. Mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le gaullisme est profondément enraciné dans l'histoire de la France. Ça veut dire qu'il y a des acquis que personne ne conteste plus. On parlait tout à l'heure, alors c'est pas qu'une origine gaulliste, c'est aussi évidemment les communistes, mais on parlait de la sécurité sociale, qui sont un héritage commun. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent se prêter au débat. De Gaulle était attaché à une Europe des nations. De Gaulle était d'abord un pragmatique, mais ça n'était pas un libéral. C'est lui qui a créé, par exemple, la DATAR pour aménager le territoire, pour que le budget national puisse se déployer dans les régions. Aujourd'hui, il y a un débat. Moi, je suis un étatiste. Je pense que l'État devrait être un peu plus fort pour ce qu'il concerne, c'est-à-dire la santé, l'école, la sécurité. Nous emmerder un peu moins, pour reprendre une formule de Pompidou, parce que parfois, effectivement, on est assommé par les charges et les réglementations inutiles. Mais je suis attaché à un État qui protège les Français, qui est fort sur le régalien, qui aménage le territoire, qui essaie aussi de corriger un certain nombre d'injustices sociales. Il y a une pensée sociale du gaullisme. Mais en fait, le gaullisme est par essence social.
D'accord.
Juste pour la fin, comme ça, un petit mot qui me revient, c'est l'attitude de Georges Pompidou vis-à-vis du général de Gaulle à cette époque. Ça m'inspire une maxime latine, « Tic oce mi fili », toi aussi mon fils, César disant ça à Brutus, qui venait de le planter. Je trouve que, en l'ayant relu dessus, je trouve que ça n'a pas été très élégant de la part de M. Georges Pompidou.
Ouais. Ils avaient des divergences de fond, notamment sur la question de la participation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Pompidou avait des qualités, il a modernisé le pays, c'était un homme de culture, il a écrit par exemple une remarquable anthologie de poésie, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une autre vision que de Gaulle de l'économie, c'était un associé de Rothschild. Tiens, je crois que d'autres ont été associés de Rothschild avant de devenir président de la République. Et il y a eu ce grand désaccord sur la participation. De Gaulle y croyait dur comme fer, tandis que Pompidou, plus proche des milieux économiques, ne voulait pas de cette participation.
De quelle participation tu
Alors, parles, la participation, c'est cette idée, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'intéressement. C'est cette idée que, les résultats de l'entreprise profitent aussi aux salariés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le modèle capitaliste, dont on connaît aujourd'hui un certain nombre de dérives.
Parler marxiste.
À côté, le socialisme ou le communisme. Et De Gaulle a voulu penser une troisième voie l'intéressement, la participation, elle peut prendre différents noms.
une meilleure répartition de la valeur ajoutée, tu vois.
Tout à fait.
Voilà, voilà, on parle
de marché. Voilà, donc ça c'était un désaccord de fond. C'était un désaccord de fond, voilà, entre Pompidou. Ça, c'était un désaccord de fond entre Pompidou et De Gaulle. De Gaulle étant très attaché à cette réforme de la participation. De Gaulle ayant obtenu que le référendum soit différé, référendum qui finalement n'aura jamais eu lieu. Ça aussi, c'est peut-être une des réformes que le parti gaulliste aujourd'hui pourrait reprendre à son compte. Et après, voilà, Pompidou a joué une carte assez personnelle. Il voulait le pouvoir. Pour autant, il n'a pas fait que des choses négatives.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça serait utile d'avoir un personnage comme lui ?
Ta question contient la réponse, voyons.
Vas-y.
Bah, bien sûr. Là, on a que des gestionnaires à la petite semaine, quels qu'ils soient. Je ne parle pas d'idéologie, je parle de comportement dans l'appareil d'État. Il n'y a plus de vision des choses. Ou alors, ils nous la cachent bien, hein, je suis désolé. Et ça, depuis, j'y mets aussi Sarkozy, je suis désolé. Il n'y a plus aucune vision des choses. Chirac, encore, premier mandat, avait une certaine vision des choses. Il y a tellement de choses sur le gaullisme. Tu prends par exemple le discours de Phnom Penh. Il explique, grosso modo, aux Américains que bah, nous, on a donné, que de toute façon, ils ne s'en sortiraient pas mieux. Parce qu'il a une vision, il voit bien qu'un peuple qui veut obtenir sa liberté l'obtiendra par le feu et le sang.
Ça ne veut pas dire que la population la comprend, cette vision. Hein? Quand tu dis aujourd'hui, ils n'ont pas de vision, ils en ont peut-être une, mais on ne la comprend pas, ou ils nous l'expliquent mal.
Ils nous l'expriment. Hein.
Mais peut-être qu'à son époque, c'était un peu la même chose. Est-ce qu'elle était comprise, sa vision ? Mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'un personnage comme lui, aujourd'hui, il serait vraiment pertinent avec toute sa construction, tout ce qu'il était. Bon, on passe sur le... Je comprends le côté État fort, je comprends le côté visionnaire, ça, je comprends, mais moi, je le vois comme ça, De Gaulle. Je le vois comme quelqu'un de très opportuniste au départ et de très constructeur de son opportunisme par la suite, notamment avec le système du référendum. Quand il met à l'écart Assemblée nationale, etc., quand il demande la dissolution, par exemple, il n'informe personne. C'est un personnage comme ça qui éclate tout ce qu'il a autour de lui pour arriver à ce qu'il veut. Est-ce que ce personnage-là pourrait aujourd'hui avoir une place qui serait pertinente ?
De Gaulle, c'est aussi des circonstances. Tu connais sa célèbre maxime, c'est pas à l'âge que j'ai, je vais commencer une carrière de dictateur. Dictateur, il l'a été. Il l'a été, mais pas au sens courant. Non, vas-y, tu vas.
J'ai rien dit, je t'écoute.
Voilà, pas au sens courant, au sens de la Grèce antique. Oui. Le dictateur, c'est celui à qui la cité donnait les pleins pouvoirs quand elle était en danger. Il avait les pleins pouvoirs qu'il devait rendre après. Alors c'est pour ça qu'on assimile maintenant dictateur et tyran, parce que souvent, des fois, il ne le rendait pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on a appelé dans des situations précises. On va dire la libération et la guerre d'Algérie. Quand je dis dictateur, tu as bien compris dans quel sens, c'est-à-dire les pleins pouvoirs pour éviter que les...
Aujourd'hui, donne-moi un exemple. Aujourd'hui, en quoi ça, là, ça serait utile ? Le fait d'avoir les pleins pouvoirs sur quelque chose, sur quel thème ?
De tout ce qui est régalien.
Sur quel thème aujourd'hui,
de botter les fesses de nos amis allemands, un peu de temps en temps, ça leur ferait du bien. Ce genre de choses où là, vraiment, bah, voilà, je veux dire, tout ce qui est régalien, paravolo. C'est clair.
Ok, donc ça, pas de discussion avec le peuple. Il faudrait avoir une personne qui a les pleins pouvoirs et qui
Pourquoi
nous amène...
Pourquoi pas de discussion avec le peuple ?
Il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a été élu, il a fait des référendums, il y a eu des élections municipales, législatives. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'usurpateurs qui disent « voilà ce que De Gaulle aurait fait, voilà ce que De Gaulle aurait dit ». Sa personne est capable de l'imaginer. Par contre, De Gaulle, c'est l'homme qui, dans les circonstances qui sont les nôtres, prend la décision que lui commande l'intérêt général, l'intérêt de la France, l'intérêt des Français. Voilà. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas uniquement focus sur sa prochaine élection, mais qui pense le temps long et qui ait une certaine conception de l'indépendance. Moi, je ne suis pas chiracien, même si je lui reconnais un certain nombre de qualités. Ce qui ne veut pas dire qu'il a fait beaucoup de choses pendant ses mandats. Mais j'admire Chirac et Villepin lorsqu'ils disent non aux États-Unis pour la guerre en Irak. Ça, par exemple,
ça
a été un relent de gaullisme. Et aujourd'hui, ça manque. On aimerait bien imaginer dans cette chère classe politique des personnes qui voient d'abord l'intérêt du pays, qui arrivent à s'extraire des intérêts parfois économiques, parfois étrangers. Et quelqu'un qui soit solide, qui a une autorité, qui a une vision. Aujourd'hui, ça manque et en ce sens, on peut souhaiter forme de gaullisme au pouvoir.
D'accord, avec plus de pragmatisme, plus de, d'attention à l'intérêt du peuple et moins d'attention à la mondialisation.
Bah c'est l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, et c'est regarder un peu moins du côté des contingences politiques.
D'accord.
Voilà, les partis politiques ont une utilité parce qu'elles structurent la vie politique. Le général de Gaulle lui-même a dû, au final, fonder le sien. Mais voilà, il faut des hommes politiques qui voient un peu plus loin que la prochaine échéance, qui pensent d'abord à la France et qui pensent aussi aux prochaines générations.
D'accord.
RLP.
Ok, petite pause musicale.
Mireille Mathieu, De Gaulle.
À tout de suite.
Le siècle va mourir tranquille. De Gaulle disant la France est douce en 1900. Pendant que les autres garçons vont jouer aux billes ou au ballon. De Gaulle de Londres, Français, la route sera longue. De Gaulle 40, une certaine idée qui chante, une poignée. Magique d'un autre monde, De Gaulle de Lille, comme un naufragé dans son île, on fait un sinistre procès à ce général sans étoile. Mais quand De Gaulle parle aux Français, il reconstruise leur cathédrale.
RLP.
De retour sur RLP avec notre invité Basile Fagnier. Est-ce que ça aurait un avenir aujourd'hui, le gaullisme? Est-ce que ça en a un?
On ne l'appellerait peut-être pas gaullisme. Je reprends ce que dit Basile. C'est plutôt une certaine forme de, j'aime pas le terme, mais méthodologie dans l'approche de la gestion d'un État. C'est, pour résumer, une certaine idée de la France. Le président, il doit anticiper, prévoir, avoir des lignes stratégiques, planifier les choses. Alors, quand je dis planifier, ce n'est pas le Gosplan. Hein. Mais il y avait un ministère du plan sous De Gaulle. C'est-à-dire, voilà, on va aller dans tel sens, on va faire ça. Laissons les entrepreneurs privés le faire, mais sous notre œil, surveiller que ça aille bien dans la direction que l'on désire. C'est ça, régner quelque part. Enfin, régner, oui, c'est ça. C'est pas vouloir contenter tout le monde ou puis se dire oh là là, dans deux mois j'ai des élections, qui vais-je flatter, voilà, je crois que c'est
À l'image d'un territoire, toi Basile,
oui.
Comment aujourd'hui tu appliques le gaullisme ou tu appliquerais, je sais pas si t'en as les moyens complètement.
C'est un peu prétentieux peut-être de prétendre appliquer le gaullisme à l'échelle d'une mairie. Je crois que le gaullisme c'est d'abord une ambition nationale. Après, moi, j'essaie toujours d'être proche des Sarladais. On avait inscrit dans notre programme la mise en place d'un référendum municipal sur un certain nombre de sujets. Et ensuite, c'est à la fois arriver à bien gérer une collectivité. Il faut des gens qui soient en capacité de bien gérer, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Mais c'est aussi, encore une fois, arriver à se projeter, offrir une vision à long terme.
D'accord. Politiquement, si tu regardais les différentes strates, ce serait à quelle échelle qu'on pourrait appliquer le gaullisme ?
Le gaullisme, c'est De Gaulle n'a jamais été député, maire. C'est d'abord à l'échelle nationale. Après, il peut être une source d'inspiration pour tout le monde, quel que soit son niveau, son échelon. C'est une éthique, c'est une méthode, c'est une inspiration, le gaullisme.
Ok. On va glisser tranquillement vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en particulier ?
Juste un petit point de détail. Je parlais de dictateur et de choses comme ça. On s'est compris. Et je vais donner l'explication, la définition. L'article 16 de la Constitution le prévoit plus ou moins. L'article 16 qui est...
Alors l'article 16, c'est les pleins pouvoirs.
Pleins pouvoirs, voilà.
Alors ça... Il faudrait reprendre les textes, mais il y a une révision en 2008 qui les rend un peu moins absolus qu'avant. C'est-à-dire que dorénavant, il y a un contrôle du Parlement.
Enfin,
il faudrait reprendre
il y avait déjà des
la loi constitutionnelle et la loi organique aussi. Mais ces choses-là ont un peu évolué. Mais il faut aussi, quel que soit le sujet, ne jamais juger un sujet du passé avec nos lunettes d'aujourd'hui.
Ouais. C'est ce que je te disais.
Tout à l'heure, j'entendais parler de Focard, de quelques autres noms.
Tout le monde
sait ce qu'ils sont, avec leurs qualités, avec parfois quelques déviations. Mais il faut toujours situer une décision, une personnalité dans son contexte.
Accordez-moi que je n'ai pas trop appuyé sur ces sujets.
On aurait pu en parler, il n'y a pas de sujet tabou.
Toutes ces choses-là.
L'OS, elle a surtout voulu tuer le général de Gaulle.
Parce que pour moi, en fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte en fait, que ça ne mettait pas en lumière ce qu'était le gaullisme. Ça mettait plutôt en lumière le fonctionnement d'un personnage. Et je pense que, notamment sur ce qu'est le gaullisme, avec certaines valeurs, avec ce que ça défend, je pensais qu'il fallait dépasser l'histoire du personnage et qu'il fallait un petit peu regarder comment ça avait marqué, comment ça faisait fonctionner les autres personnes que lui-même. C'est pour ça que je n'ai pas trop appuyé.
Mais tu vois, nos émissions, elles portent des titres l'anarchie, le communisme, là c'est le nom.
Le gaullisme.
Mais si on veut toute la question par exemple entre le marxisme et le communisme, tu vois, l'incarnation ou pas.
Oui. Voilà. Mais lui justement, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant dans son parcours parce que je reprends cette idée de compactage. Dans son bilan, moi je pense qu'en démocratie, à part le référendum, il n'a pas donné grand chose en démonstration, mais dans son bilan économique, il est plutôt bon. Il sort la France de l'OTAN.
Du commandement intégré de l'OTAN.
Du coup, il prend des décisions. Il fallait avoir une forte personnalité, tu vois, le personnage.
La démocratie, il y a quand même un aspect important. C'est-à-dire qu'au moment de la crise algérienne, il y a un État qui est en faillite, qui est en lambeaux. Et le général de Gaulle rétablit l'État de droit. C'est-à-dire qu'il rétablit des institutions.
Mais chaque fois qu'il faut un rapport de force, il a été là.
Et à chaque niveau de ces à chaque niveau de pouvoir, il y a une élection, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que le président de la République avant... Il était nommé en catimini par le Parlement. Il avait un peu moins de pouvoir que la reine d'Angleterre. Là...
Et c'est à chaque fois là que se construit... Parce qu'au début, je pense qu'il est opportuniste par acte qui lui arrive. Mais après, je pense qu'il le construit. Et c'est là où il change. Moi, je pense qu'il devient stratège. Il bénéficie chaque fois qu'il y a un rapport de force à mettre en place. Il le met en place et il en profite derrière. Quand il prend la présidence du Conseil des ministres, on l'appelle... Du coup, bam, rapport de force, il gagne le rapport de force, et derrière, on lui donne la main, les pleins pouvoirs, il les rend pas. Tu vois, c'est pour ça, en termes de démocratie, il a pas mis de démocratie au niveau des mairies, sur plusieurs choses, il aurait pu imposer aux communes, il aurait pu faire ces choses-là, de faire des référendums sur les départements, il aurait pu, tu vois, imposer toutes ces choses-là.
Il a fait à l'échelle de la France...
Il les a gardées pour lui chaque fois que ça lui a rendu service. Et... Vraiment, ça lui a rendu service parce qu'il pouvait dire à l'Assemblée nationale, par exemple, « Taisez-vous, vous voyez bien que le peuple est derrière moi. »
De Gaulle a toujours agi dans le sens de ce qu'il estimait être l'intérêt de la France. Et servir De Gaulle à cette époque, c'était aussi servir la France.
Par cet angle d'attaque-là, oui, je suis d'accord avec toi.
Il avait une vision, et cette vision, régulièrement, il a voulu la faire valider. Et le jour, avec le référendum de 69... sur la réforme du Sénat et la régionalisation, il a vu que le peuple ne suivait pas, il a quitté le pouvoir. C'était une sortie d'ailleurs majestueuse.
Un grand seigneur.
On est loin d'un Pinochet, évidemment.
Alors, pour cette fin de, d'émission, est-ce que vous avez des livres à conseiller?
Moi, je pas de livres. Basile, en, je pense, en donnera beaucoup mieux que moi. Aussi, il y avait un Jean Lacouture.
Il a fait une biographie en trois tomes, oui, ouais, qui est très, très bien.
J'avais lu. Mais se replonger dans certains discours, alors on avait parlé de celui de Bayeux, il y a celui de Phnom Penh, si t'en vois d'autres, Basile, ces discours sont vraiment, on les étudie en histoire, ça donne vraiment, et puis c'est un homme de lettres, ah oui, on a oublié de le dire, c'est un homme de lettres, et franchement, de ce côté-là, ces discours sont quand même des perles. Quoi.
Il faut d'abord commencer par les textes que le général de Gaulle a lui-même écrits, le fil de l'épée qui définit voilà, les attributs du chef. Ensuite, il y a ses mémoires qui sont remarquables. Il faut lire ses mémoires de guerre, lire aussi ses mémoires d'espoir. Il y a une très belle édition d'ailleurs chez Plomb qui réunit les deux et dans laquelle vous pouvez également trouver tous ses discours depuis 1946 jusqu'à sa démission en 1969. Enfin, c'était un communiqué, mais je dirais que c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, il y a effectivement la biographie de Jean Lacouture qui est très bien. Il y en a une autre un peu moins importante, mais de Max Gallo. Il y a Éric Roussel aussi, qui est un grand historien contemporain, qui a écrit une biographie assez remarquable et mise à jour. Après, il y a moi, deux textes que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est un livre de Malraux, d'André Malraux, qui était son ministre, qui était un de nos grands auteurs français, qui a écrit « Les chaînes qu'on abat », qui est une conversation inspirée de faits réels en 69, où on lit De Gaulle et Malraux parler du pouvoir, de la vie, de la mort, enfin de plein de sujets. On découvre un peu mieux la pensée de De Gaulle, mais aussi De Gaulle comme personne intime et privée. Et après, il y a un livre aussi qui est très intéressant. Donc là, je vous parlais du livre de Malraux, je dirais que c'est plutôt un point de vue un peu macro, un peu éloigné. Et ensuite, il y a un livre au contraire où on voit De Gaulle à la loupe. Il avait comme confident et ministre de l'information Alain Perfit, qui a écrit trois livres, c'était De Gaulle, et dans lesquels il raconte l'ensemble des conversations, des entretiens privés qu'il a eus avec le général De Gaulle. Et donc vous avez des dizaines, voire des centaines de chapitres où vous pouvez vous référer à ce que De Gaulle a pu dire sur la Russie, sur la participation, sur tel homme politique. Enfin, voilà, je recommanderais de lire le général De Gaulle et de lire aussi voilà, Malraux, Perfit. Après, il y a plein de choses. Il y a, par exemple, Bernstein qui a écrit une très belle histoire du gaullisme. On a aussi quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais Yves Guéna, qui était un grand fidèle du général de Gaulle. Il y a des actes de colloque qui ont eu lieu sur lui, qui ont été publiés récemment par le professeur Bernard Lachaise. Il faut lire aussi les grands témoins du gaullisme. On n'a pas parlé de Guéna, mais Guéna en fait partie, a marqué le territoire de son empreinte. Voilà, il y a plein de choses à lire. Et moi, je conseillerais de commencer par ses mémoires, puisque c'est... C'est de lui et ça permet de mesurer toute la profondeur de sa pensée.
D'accord. Moi, un petit bouquin qui s'appelle « Cher pays de notre enfance », bon, qui est un petit peu cinglant, je vous le dis. Hein. C'est une bande dessinée sur notamment tous ces systèmes de réseau, mais qui n'est pas dépourvu de sens parce qu'en toile de fond, il marque quand même une politique assez stable, bien que ce soit sur une BD. Bon, là, on s'est rendu compte dans l'émission que c'est pas facile de détacher le personnage du mouvement parce que il n'y a pas eu de parti politique. Mais il en reste quelque chose. Moi, j'étais très content de te recevoir à nouveau, Basile, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais étonné de voir quelqu'un d'aussi jeune qui était gaulliste. Je me suis dit, merde, un corps jeune dans un esprit vieux. J'essayais de confronter un peu ces deux événements-là.
Et je suis de moins en moins jeune et de plus en plus gaulliste. Donc je corrige.
Ouais, mais j'ai trouvé très intéressant ta manière d'aborder, d'aborder le mouvement, la pensée de cette personne-là, de Gaulle. Tu l'as, je crois, bien transformé en pratique. Entre une pensée, tu l'as amené à une pratique. Moi, j'ai bien compris ce qui était derrière la pratique de Gaulle.
Après, je suis un peu déçu de ne pas avoir quelque chose qui servirait sur les territoires comme des mairies. Mais merci à toi d'avoir été présent.
Seul.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée d'un repère. Ben, merci à Stéphane d'avoir été présent. Et merci à Émilie aujourd'hui d'avoir fait la technique. Merci aux auditeurs, aux auditrices de nous écouter. Je ne sais pas combien vous êtes. Je veux bien avoir des retours via le site de RLP pour savoir qui nous écoute, combien nous écoute et est-ce que ça vous intéresse de nous écouter. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée à tous.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Oui.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage, pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui,
une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.